Direction la Camargue.
Vous connaissez la route, monsieur ?
Un peu, oui. Vous en faisiez déjà du temps où il n'y a plus de charrettes que de voitures.
CO2, mon amour.
Arles, c'est encore loin ?
C'est encore à combien ?
À 4 petites heures de cheval.
Et en voiture ?
En voiture ? Du train où vous allez, j'ai bien peur que nous y soyons avant vous. Allez, viens, glisse en double. Il est bon. Oui, Ulysse, tu plais au monsieur.
Denis Chesson.
Comment l'appelez-vous, votre cheval ?
Ulysse, un nom romain.
Un nom grec ?
Grec, non, romain. Les romains, c'était les gens qui, dans l'ancien temps, habitaient Arles. Arles et Nîmes.
Sur France Inter.
Alors évidemment, vous me direz, les temps ont changé, hein, depuis heureux qui comme Ulysse. Mais en tout cas, cette émission prendra elle aussi le temps de ne pas aller trop vite. Bienvenue dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Clément Berman à la technique, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Avec une petite humeur, on va dire déviante. Bah oui, déviation de la vie et des voitures. Ensemençons le désert des communes charmantes campagnardes, autrefois posées sur les voies de communication. Alors vous savez, on sortait la chaise sur le trottoir, on voyait couler la vie, le commerce des hommes, ça potinait de conversations de voisinage, et puis on pouvait même humer l'odeur du crottin. Jusqu'à ce que passent les premières automobiles. Alors là, les poules effarées et les enfants étaient ravis, hein, ils couraient derrière en riant dans les vapeurs d'essence. Et puis des autos, un véritable outil de liberté à l'époque, sont devenues quand même assez aliénantes. Et il y en a évidemment de plus en plus. En plus, une rumeur incessante, la bande-son de nos villes. Sur les rubans d'asphalte, c'est le grondement assassin d'un silence qui jamais plus ne revint. Alors on a eu après les premiers accidents, les chaises sont rentrées, les enfants aussi, les pétitions à la mairie ont fleuri sur l'air des lampions. Nous voulons une déviation ! Artère engorgée, la vie n'est plus possible. Ben, c'est pas grave, qu'est-ce que l'on va faire ? On va dévier et le ruban d'asphalte a coulé, mais au large, à l'arrière des maisons, dans les jardins, dans les champs, les prés, bousculant carrés de poireaux, les mares, et vous savez, les cagadous de bois avec leurs petits cœurs découpés dans la porte. Bon, on se dit libéré, on est tranquille, et trop peut-être. Peu à peu, des villages en sont morts comme une cendre refroidie. Les passants passent, à fond la caisse, mais au loin, et ne s'arrête plus sur la place. Les panneaux à vendre fleurissent bien avant l'arrivée du printemps. Et un chat traverse parfois la rue vide, la queue levée en point d'interrogation sur cette société. Alors la vie s'est exilée plus loin, hein, au centre des marais qui ont été drainés, en hectares de parking, centre d'activité, zone commerciale. Le périurbain bat son plein. Et sans voiture, bien sûr, la vie est devenue impossible. Alors comprenez-moi, hein, donc il y a eu des déviations indispensables en fonction des contextes qui ont dépollué la vie des gens. Et là, ce qui nous amène, c'est le collectif qui s'appelle « Contre le projet de contournement de Revel pour des solutions alternatives ». Et là, ça s'agite. Parce que depuis 35 ans, en Haute-Garonne, donc au pied de cette belle montagne noire, des propriétaires voient leur terre, donc qui est un outil de travail, grévée pour réserver l'emprise d'un contournement de Revel. 35 années d'immobilisme. Et le projet est aujourd'hui revenu comme une urgence, à contresens des engagements nationaux et locaux pour la protection de l'environnement et de l'agriculture et pour la revitalisation des centres-villes. Et entre-temps, quand même, l'urbanisation, bien sûr, s'est ouverte, hein, avec son lot d'incohérences, conduisant notamment à autoriser des lotissements et des permis de construire au ras de l'emprise du projet initial de déviation. Hein, elle est pas belle, la vie. Et sa vision d'avenir ? Alors, un coût de 20 millions d'euros, alors que le trafic de poids lourds a baissé de 44% depuis 2005. Et, je vous le disais, il y a des alternatives. Le pot de terre agricole contre le pot d'échappement bitumineux, c'est un classique en France. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et en matière d'environnement, comme pour beaucoup de choses, soyons camusiens, ça réchauffe le cœur et l'envie d'agir. Alors nous allons renaturer aujourd'hui un bout de Camargue. Là, ça va nous faire du bien. On va dévier, ouais, on va dévier nous aussi, mais à l'aide de canaux, de l'eau douce pour la mélanger à de l'eau salée. Et je vous reconvie donc à la conquête, la reconquête, je vous convie, hein, à la reconquête d'un milieu, une action positive qui est donc inscrite dans le temps. C'est notre sujet du jour, donc en Camargue.
Sleeping in the daylight, leaning out of windows, some road laughing, no one's fresh honey. I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us. And I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
C'était Baxter Dury sur France Inter, Slum Lord, le marchand de sommeil. Allez, restez réveillés.
CO2, mon ami.
Ah, la Camargue. Lieu de paix et de sérénité. Osmose parfaite entre une faune grouillante et une flore luxuriante, où les hommes et la nature ont trouvé leur place.
Sur France Inter.
Alors évidemment, nous sommes sur une terre, sur des eaux en perpétuelle évolution et rien de figé. En Camargue.
Alors ici, Denis, on est sur ce qu'on appelle des anciens salins. On est sur des terrains qui étaient, il y a encore une dizaine d'années, utilisés pour la production de sel. Et puis ces terrains ont été vendus au Conservatoire du Littoral. Alors l'étendue Galabert, c'est ce qu'on appelle une lagune. C'est un grand étang qui est en connexion avec la mer. Il s'étend du nord au sud sur 4 km de longueur. Donc on croirait presque qu'on est déjà au bord de la mer. En fait, non, on est sur le bord de l'étang.
C'est un espace qui vaut d'être connu parce qu'il est précaire et aléatoire. C'est-à-dire que le charme d'un delta et le charme de la Camargue, c'est qu'en fait, ça n'a que 6000 ans. On a l'impression que l'homme a pu le maîtriser, mais finalement, il n'a pas tant agi que ça. Et qu'on sent cette espèce de force permanente dans ces lieux qui vous disent, faites ce que vous voulez, on est quand même beaucoup plus fort.
Ouais, je vous le disais, cette terre, donc, elle bouge, elle est toujours en évolution. On a entendu Marc Thibault, qui est chef de projet à la Tour du Valat, et puis Gaël Emery pour le parc naturel régional de Camargue. Alors, bon, je peux vous dire, les taureaux, les chevaux blancs, les flamants roses, la carte postale est prête à glisser dans la boîte aux lettres. Vous rajoutez une bonne poignée de moustiques aussi. Une terre, d'ailleurs, qui est peu peuplée, hein, à cause du manque d'eau potable. Et en fait, la Camargue, elle est bien identifiée. Donc, nous sommes là au sud de la Camargue. Bouches-du-Rhône, bien sûr, avec sa bouche d'eau douce et d'eau salée. Et puis, bien sûr, il y a le sel. Et là, on va parler de la reconquête d'un territoire donc industriel qui était dédié au sel, donc autour des salins de Giraud. On extrayait donc ce sel de façon tout à fait industrielle. Et donc, vous avez le Conservatoire du Littoral, hein, qui est en France propriétaire de déjà de 200 000 hectares, de plus de 750 sites, et qui a donc racheté ce site-là. Donc, on va pouvoir en parler pour redonner sa place à la nature. Alors, vous avez trois gestionnaires, donc cette fameuse Tour du Valat, centre de recherche sur la conservation des zones humides méditerranéennes, la Société nationale de protection de la nature et le parc de Camargue, sans oublier le WWF.
Entendez-moi ces jolis sons de galets. Là. Et alors, coup de peau. Le Mistral nous épargne quand même gentiment donc face à cet étang. Oh, on a quelques petites plumes là. Ah oui, là il y a un oiseau qui est sûrement passé
Un mauvais quart d'heure, mais c'est pas de votre faute. Bonjour Léon Pigard.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes une des responsables de ce conservatoire du littoral. On va rappeler quand même une chose, c'est que des salins ici, il y en avait depuis l'Antiquité, oui. Mais quand même de façon industrielle depuis la fin du 19e siècle.
Traditionnellement, en Camargue, c'était une activité économique très importante qui faisait travailler un grand nombre de Camarguais, mais qui occupait aussi un site immense, puisqu'on est là sur un site de 6000 hectares, de plus de 6000 hectares. Donc il y a un enjeu particulier, puisque des sites comme ça, le Conservatoire du Littoral n'en a pas beaucoup, à part en Outre-mer, c'est des sites un peu exceptionnels.
Alors, faut juste quand même se rappeler une chose, c'est que ce lieu était quand même assez enfermé, puisque le principe, c'était de faire remonter, on va dire, de l'eau salée, de la mer, et puis après de transformer ça en sel, donc il n'y avait pas d'eau douce.
Tout à fait, tout était cloisonné, c'était le système des partènements pour les anciens salins.
Les partènements, c'est
ça? Les partènements, ça s'appelait. Depuis qu'on a acquis le site, notre travail consiste à recréer du lien entre ces différents anciens partènements, donc de créer des ouvertures qui permettent à l'eau de repasser d'un étang à l'autre, mais surtout aux espèces, végétales comme animales. Là, on est sur un programme d'envergure qui va s'étaler sur de nombreuses années et on n'est qu'au milieu du gué. L'objectif, c'est de reconnecter globalement l'étang du Vacarès à la mer. Donc, on va mener un programme de travaux qui va permettre d'ouvrir tous les étangs et qui va permettre aussi, en parallèle, aux gens qui ont envie de découvrir ce site, d'avoir des promenades et des parcours dans ces étangs.
Alors, moi, je suis une plante, je suis un poisson. Je suis assez content de l'affaire.
Oui, tout à fait. On a mis en place un certain nombre de suivis naturalistes qui nous permettent de mesurer l'impact de nos actions et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est favorable à de nombreuses espèces, notamment les herbiers. Ces grandes prairies qu'on trouve sous l'eau, sous les étangs, qui rendent de nombreux services aux humains, notamment parce qu'ils permettent de sédimenter les sols, d'héberger les bébés poissons, les larves, mais aussi de produire de l'oxygène. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces écosystèmes présents sur nos sites. Et à partir du moment où on a ces herbiers, bah souvent toute la chaîne trophique se réinstalle. Les gros poissons reviennent manger les petits, les oiseaux reviennent manger les gros poissons et on est content.
Et chacun fait son boulot et c'est formidable. Oui, mais dis donc, il y a quand même une belle colonie là qui est là.
Oui, oui, ils sont très présents. C'est d'autant moins gênant pour nous qu'aujourd'hui le flamant rose est une espèce qui se porte bien en France et sur le bassin méditerranéen. Donc on va effectivement créer des conditions qui vont plutôt favoriser d'autres espèces comme les larots limicoles et d'autres espèces d'oiseaux qui trouvent là par contre complètement leur bonheur.
Là, je viens de rejoindre Gaël Emery du parc naturel régional de Camargue. Et alors, vous êtes-vous vraiment un enfant du pays? Vous êtes né ici?
Oui, je suis né dans le village de Salins de Giraud, qui est à quelques kilomètres à vol de Flamand du lieu où on est.
Et oui, et donc c'est bien ce sel qui a permis aux hommes de travailler?
Oui, alors avant le sel, c'est un lieu qui n'intéresse personne. C'est une terre isolée où l'homme n'arrive pas à s'installer, il n'y a pas de digue, il n'y a pas de chemin, il y a beaucoup de moustiques. On dit que c'est la terre de l'homme rare à ce moment-là. Et puis grâce au sel, l'homme s'installe, se développe. C'est une parenthèse d'une centaine d'années. Et puis aujourd'hui, on démarre une nouvelle ère sur cet espace.
Donc une nouvelle aventure pour remettre de l'eau douce dans cet étang afin de désaliniser.
Alors c'est un poil plus compliqué que ça, c'est-à-dire que il ne s'agit pas que de mettre de l'eau douce, il s'agit de reconnecter cet espace qui avait été un peu corseté par l'exploitation salinière, donc c'est pas un jugement de valeur, mais pour créer du sel, il faut pouvoir gérer finement les eaux et les salinités. Et à partir du moment où on sort de ce système, il faut reconnecter tous ces étangs entre eux, donc disons qu'on entretient plus un échange et une bataille des eaux entre les eaux douces, les eaux saumâtres, c'est-à-dire à moitié salées, et les eaux salées. Et c'est ce qui fait la richesse originelle de la Camargue, c'est cette permanence d'aller et de retour entre l'eau douce, les eaux saumâtres et les eaux salées.
Il y a le coup de pouce de l'homme, mais l'idée c'est de faire avec la nature. C'est pas comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'être un peu maître et dominateur.
Oui, alors là on change complètement de paradigme, surtout que dans la culture camarguaise, sur ce territoire conquis tardivement par l'homme, la culture de je gère, je maîtrise, je développe
est très ancrée
dans les pratiques. C'est ce qui a permis à la Camargue d'être ce qu'elle est aujourd'hui, ça s'en conteste. Par contre, sur cet espace-là, on essaye de changer complètement la logique en redonnant les clés à la nature et en se disant peut-être qu'on peut lui faire confiance.
On s'est posé à l'abri du vent. Bon, le mistral nous épargne assez quand même, là, aujourd'hui.
Oui, on appelle ça un mistralet ici. C'est-à-dire que c'est un petit mistral.
Oh, ça va.
C'est un mistral qui pose pas de problème.
C'est un petit joueur, quoi.
C'est un petit joueur.
Et ce mistral fait aussi partie du paysage parce que vous avez des eaux qui remontent, vous en avez qui descendent, et puis bah, lui aussi qui joue son rôle.
Le mistral, c'est la meilleure des pompes, en Camargue. C'est-à-dire que c'est par son action que les communications entre les étangs se font, qu'il y a de l'oxygénation de l'eau. Donc c'est un acteur important. L'autre vent aussi, son opposé qui est au sud-est, qu'on appelle le marin, ou le vent d'en bas, celui qui vient de la mer, joue aussi ce rôle, mais dans une moindre mesure. Et c'est vrai qu'on compte beaucoup sur les vents pour déplacer les volumes d'eau.
Alors Gaël, sous les yeux, nous avons un tableau incroyable. Nous avons un tout petit liseré, donc c'est un peintre qui l'a dessiné. Et en fait, c'est une des limites de cet étang.
Oui, alors c'est vrai qu'ici, on est sur des superficies très importantes, on a du mal à réaliser. L'étang du Galabert qui est devant nous fait 500 hectares. Ouais. La totalité du site en fait 6500. Pour rapport, Paris Intramuros, c'est entre 8000 et 10 000 hectares. Vous voyez qu'on est sur des superficies très grandes et on a du mal sur pays très plat où en fait on a un dénivelé qui se joue à un centimètre, des fois avoir la limite entre les choses. Donc on ne sait jamais si on est sur du terrestre, sur de l'aquatique ou sur du ciel. Et c'est vraiment un des charmes de cet espace. On a l'impression que l'homme n'est presque plus là et que seuls les éléments commandent. Alors c'est plus compliqué que ça évidemment, mais en tout cas cette impression que ça nous laisse, je trouve est toujours très reposante par les temps qui courent en plus.
Ça crée quand même aussi un imaginaire dans l'esprit des gens.
Oui, quand on parle de l'envoûtement camarguais, beaucoup d'auteurs s'y sont penchés, notamment celui qui a écrit la fameuse bête du Vacarès, donc cette espèce d'animal mi-homme, mi-bouc, qui représentait, qui était une allégorie de la nature et qui venait mourir en Camargue parce que c'était le seul endroit où l'on pouvait se reconnecter aux sources originelles de la nature. Celui qui parlait de l'envoûtement camarguais, je pense qu'il parlait déjà de cette force qu'on ressent quand on vient dans ces lieux. Alors là, vous n'avez pas les jumelles, mais moi, ce que je vois, c'est un vol de flamand là, qui est en train de survoler à ras de l'eau cette fameuse étang du Galabert. Donc vous voyez ce rose qui vient en opposition à ce ciel gris, c'est absolument incroyable. Surtout que là, vous voyez, le soleil sort, donc c'est encore plus beau. Et vous pouvez voir aussi des petites volées de bécassos, donc ça ce sont des petits limicoles qui vont se nourrir sur les gravières et qui là se déplacent d'étang à étang. Donc ça ce sont des bécassos qui vont probablement passer l'hiver ici. Donc ils sont trop courageux, eux le mistral ça importe peu, au contraire, ça dégage des micro-organismes et ils s'alimentent. Et puis après, au milieu de l'étang, vous pouvez voir une petite tache noire, si vous avez un bon coup d'œil d'expert, ce sont des canards. Colvert probablement, ou peut-être des siffleurs, canards siffleurs, qui sont remisés au milieu de l'étang et qui restent là la journée avant de s'envoler à la tombée de la nuit pour aller s'alimenter dans les étangs autour.
Alors nous allons poursuivre évidemment ce voyage, donc l'histoire de cette reconquête de la nature, mais qui je vois là, chez Did.
Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il. À peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis
qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Ils sont pas mal quand même dans la famille Chédid, à commencer quand même par la grand-mère, André, le fils, Louis Chédid en l'occurrence, tout ce que l'on veut dans la vie, sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, et là on poursuit donc ce voyage tranquillement, dans ce lieu où il n'y a pas si longtemps, donc on extrayait donc du sel pour l'industrie chimique, et aussi pour le déneigement, on a entendu là, ça doit être un taureau je pense, et donc ce lieu est délicieux pour l'œil, parce que vous avez donc la terre, le ciel et l'eau qui se touchent, et là c'est un régal. Allez, nous poursuivons avec Gaël Emery.
Ce système, ce que vous êtes en train de faire, ça bouscule les habitudes.
Ah oui, ça bouscule même violemment. Et donc là, on se heurte en fait à des perceptions et à des visions. Chacun a sa vision du territoire. Et il y a une charge affective très très forte. Parce que la Camargue, comme d'autres espaces naturels, a tendance à créer une forte appropriation par les gens qui y vivent, et donc tout le monde se sent un peu dépositaire de cette Camargue et de ce qu'il en est. Donc c'est vrai que quand on discute de ce qu'est la Camargue, de ce qu'elle doit être, c'est obligatoirement un petit peu tendu et un petit peu chaud, on va dire, mais ça fait partie d'une certaine façon, à la fois, je dirais, de l'identité du lieu, mais aussi ça montre que les gens y sont attachés, parce que lorsqu'ils réagissent comme ça, c'est que ça a du sens pour eux.
Alors, donc, ce travail que vous effectuez pour remettre, on va dire, en vie ces étangs, parce que rappelons-le, comme il y avait pas de vie, quasiment pas, donc, dans les étangs salins.
Alors, disons qu'il y avait une vie qui était assez stéréotypée,
oui,
et qui était liée à cette activité, hein, puisque un système salinier est un système très fixiste, et qui a besoin de maîtriser les espaces précisément pour sa production. Donc là, on remet de l'aléatoire. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire en termes de nature, donc une nature qui est foisonnante. Et puis l'année d'après, pour des raisons météorologiques ou autres, bah, ça va être un peu moins producteur. Mais c'est aussi ça un espace naturel. C'est-à-dire qu'on intègre, notamment en zone méditerranéenne et en situation de dérèglement climatique, tout l'aléatoire de ce que produit la nature.
Alors Gaël, moi je suis un flamand rose. En fait, j'étais très content là sur mes terrains de sel.
C'est vrai que le flamand avait des conditions pour la reproduction dans un salin qui était parfaite. Il avait le niveau d'eau qu'il fallait, la salinité qu'il fallait, l'isolement aussi qui lui permettait de mener tout ça à bien. En même temps, c'était une action de l'homme qui visait à le sauver, puisque quand on a fait l'îlot pour protéger les flamands dans les années 70, le flamand ne trouvait plus de zone pour nicher et sa situation en Méditerranée était très préoccupante. Donc on a une action forte pour le protéger. Aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes du flamand, l'espèce n'est plus en danger. D'autres pays méditerranéens se sont mobilisés pour le protéger et permettre qu'il s'y reproduise. Donc on n'est plus dans la même dynamique. Donc nous, on fait en sorte que le milieu soit favorable. Mais en intégrant ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on est sur un système qui est devenu aléatoire. Et qui donc peut être favorable aux flamands une année X, mais pas forcément l'année qui suit et l'année qui suit après.
Gaël Emery, on regarde cette Camargue aujourd'hui. Là, on va prendre un peu plus de hauteur, comme si on était avec un drone. On voit bien qu'il y a un combat maintenant qui est donc mené, c'est-à-dire que l'océan se dilate, il rentre peut-être de plus en plus. À terme, on ne sait pas quand, mais la Camargue, elle est plus ou moins condamnée.
Il me semble qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire à partir de quel moment la Camargue ne sera plus habitable.
C'est sûr.
On voit bien aujourd'hui sur ce site de 7000 hectares, qui est un peu, d'une certaine façon, une première expérience de l'évolution, les choses sont plus compliquées que ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on laisse rentrer la mer que tout devient mer. On a un phénomène de marinisation avec des moments où c'est la mer qui commande, des moments où elle se retire. Au final, quand on fait le bilan des terres perdues, des terres gagnées, on a plutôt gagné 10 hectares. C'est-à-dire que les nouveaux mouvements de sédiments au sein du site font qu'on a des endroits où on a une forte érosion, mais d'autres endroits où on a une accrétion. Donc tout ça, c'est plus compliqué. Mais il n'empêche que notre rapport à ce littoral en Camargue nous force à évoluer et à revoir la question de la gestion du trait de côte et surtout de prendre plus en compte la gestion et gérer les activités humaines qui sont en retrait. Parce que la question du trait de côte ne se pose pas de la même façon ici, où il n'y a que des espaces naturels, qu'au droit des Seine-Marie-de-la-Mer, ou de Salins-Giraud, ou de Port-Saint-Giron, où on a des habitations et de l'économie.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il faudrait rendre de la terre à cette mer, alors que c'est vrai qu'ici, on est quand même très très attaché à garder cette terre, autrement dit, donc à faire des digues et à se protéger. Ça a toujours été, on va dire, la mentalité. Et aujourd'hui, c'est en train de bouger, peut-être.
Oui, ça commence, mais pour être franc avec vous, le fait de perdre du territoire est très mal vécu. C'est une partie du moi, pour parler un peu freudien, une partie du moi camarguais qui disparaît avec la mer. Puisque symboliquement, la Camargue s'est construite, d'abord géologiquement, elle s'est construite parce qu'elle a gagné sur la mer, donc elle porte en elle cette victoire de départ. Donc l'idée que l'homme en plus accompagne le sens inverse est très très difficile à accepter. Donc il me semble aujourd'hui que les esprits ne sont pas prêts et qu'on commence en fait une étape qui est le début d'une nouvelle réflexion sur ce rapport à la mer et ce rapport au territoire et sur le fait de qu'est-ce qu'on perd vraiment quand on perd des terres. Est-ce qu'on perd de l'affectif? Est-ce qu'on perd du symbolique? Est-ce qu'on perd vraiment des choses? Et je pense qu'on n'est qu'au début de cette réflexion-là et que ce seront probablement nos enfants ou nos petits-enfants qui auront à faire vraiment le virage. Nous, on n'aura été que des pionniers.
Gaël Emery, comme vous êtes un des gestionnaires, les trois gestionnaires donc, de ces salins, en fait, la mécanique, qu'est-ce que c'est? Parce qu'avant, c'était donc encerclé, on laissait rentrer donc, l'eau de mer, il n'y avait pas d'eau douce. Bon, aujourd'hui, donc, on ouvre où?
Alors, aujourd'hui, le site est quasiment fonctionnel d'un point de vue hydraulique. On s'est connecté à la mer, ce qui n'était pas le cas avant. En se connectant à la mer, alors ça n'a pas été très compliqué, puisque là, c'est la nature qui a fait le travail, en réouvrant des brèches sur les digues frontales. Donc là, la mer entre librement à deux ou trois endroits, par ce qu'on appelle ici les gros, c'est-à-dire les passages entre la mer et les étangs. Et après, on a connecté les sites au bassin versant, notamment un canot qui arrive directement du Grand Rhône, et au système Vacarès, qui est l'étang central qui est au nord du site, qui est lui composé plutôt d'une eau saumâtre. Donc en fait, il est aujourd'hui le site connecté avec l'eau douce qui arrive du Rhône, avec la mer qui est au sud, et le système Vacarès de l'eau saumâtre au nord.
Alors, tout ceci va permettre de refabriquer de la vie à l'intérieur de cet étang.
Alors ça refabrique déjà de la vie. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des secteurs où on a l'impression que la nature est comme arrêtée. Des secteurs où on voit que ça ne bouge pas. Et des secteurs où elle va très vite. Par exemple, on a entre 200 et 300 hectares qui se sont revégétalisés. Ce qu'on appelle ici les sansouirs, c'est-à-dire une végétation qui est composée de plantes qui résistent au sel, comme les salicornes, etc. Donc ça, c'est allé très très vite. Ça s'est désalinisé et ça. Aujourd'hui, on peut dire que 300 hectares, c'est quand même important. 300 hectares de milieu naturel qui sont revenus. Bon, c'est pas simple de gagner 300 hectares de milieu naturel. Et il y a des secteurs où on voit qu'il y a des lourdeurs, parce que c'est encore des problèmes de cul-de-sac hydraulique. C'est assez compliqué, même nous, on comprend pas tout. Mais la vie revient, est déjà revenue et va continuer à revenir. Notamment, nous, ce qu'on espère beaucoup, c'est dans la circulation des poissons. C'est-à-dire qu'entre la mer et les étangs, si on arrive à bien faire circuler les poissons, qu'eux-mêmes arrivent à faire leur cycle de reproduction complet pour certaines espèces, ça permettra de restructurer une chaîne alimentaire qui avait disparu.
Et nous sommes ici dans la plus grande zone humide de France.
Oui, grande zone humide qui, finalement, a traversé les siècles sans être trop tourmentée. Et ce qui en fait quand même un isolat un peu unique sur le littoral méditerranéen français, même le littoral méditerranéen en général. Et donc on a cet espace de respiration que les hommes ont réussi à épargner, que les grands choix d'aménagement du territoire ont épargné, il faut le dire. Dans les années 60-70, il y a eu des choix politiques très forts, portés par des gouvernements qui ont dit « ben non, on en fait une coupure verte qui ne sera jamais altérée ». Et donc il faut rendre hommage à ces choix-là, hein, de ces hommes qui ont eu ce courage-là à une époque où ça coulait pas forcément de sens d'ailleurs, mais aussi aux hommes qui vivaient ici, des grands personnages comme le marquis de Baroncelli qui défendait à la fois la langue provençale mais aussi les espaces qui étaient liés finalement à l'identité. Donc des précurseurs comme ça, c'est assez étonnant, ces gens qui dès le début du XXe siècle disaient il faut faire un grand parc national en Camargue, donc qui avaient ressenti cet intérêt. Donc on est sur cette zone humide qui est à la fois le fruit de sa propre force intrinsèque, mais aussi finalement elle a attiré des hommes qui ont eu cette force et qui l'ont protégée, chacun avec sa vision.
Encore un petit passage de galet, toujours un peu de vent, pour rejoindre Arnaud Gauffier. Bonjour Arnaud.
Bonjour Denis.
WWF toujours.
Tout à fait.
Voilà. Alors ici, évidemment que vous apportez votre soutien financier entre autres, et c'est intéressant de parler de résilience, que c'est de cela dont il s'agit aussi.
Oui, exactement. C'est en fait, on était sur un milieu qui était extrêmement anthropisé, donc complètement façonné par l'homme, les anciens marais salants. où on avait une biodiversité qui était présente quand même. Oui, il n'y avait pas zéro biodiversité, mais qui était une biodiversité très très liée à l'action de l'homme, donc très liée au marais salant. Et derrière, on voit que quand on arrête l'exploitation de ces marais, quand on relaisse un peu de place à la nature, quand on lui laisse du temps aussi, eh bien, elle revient. Elle a cette capacité de résilience. Elle peut revenir sur des espaces qui étaient complètement artificialisés par l'homme.
Et il faut pas forcément beaucoup d'argent.
Non, effectivement, là, on est sur des investissements et puis surtout des ouvrages qui sont relativement modestes. On est sur une passe à poissons, un pont, quelques vannes. On démantèle des pompes, donc on enlève même des ouvrages qui, eux, étaient très coûteux en argent et en énergie, puisque pomper de l'eau de mer pour alimenter les marais salants, ça nécessite énormément d'énergie. Et on revient sur quelque chose avec un fonctionnement beaucoup plus naturel.
Ça, c'est quand même un nouveau chapitre de l'avenir. C'est-à-dire qu'à une époque, on n'avait pas le choix, on faisait avec la nature, on se la prenait évidemment dans la figure. Après, on a eu donc le stade où il a fallu la domestiquer un petit peu partout. Et puis là, de nouveau, on commence à se reposer les bonnes questions.
Exactement, on fait ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Alors, c'est un grand concept connu depuis longtemps, mais paradoxalement qu'on avait peu appliqué jusqu'à présent. Et là, on voit quand même qu'on a des projets sur lesquels on applique ces solutions basées sur la nature, qui ne coûtent pas très cher à la société, mais qui ramènent énormément de bénéfices en matière de biodiversité, en matière de résilience au changement climatique. Là, on est sur un territoire extrêmement pilote sur le changement climatique, sur l'adaptation notamment au changement climatique. On va voir comment le front de mer se comporte face à l'érosion. On va voir comment les espèces s'adaptent au changement climatique avec des sécheresses de plus en plus importantes, avec des pluies de plus en plus importantes. Donc on est vraiment sur quelque chose où on apprend beaucoup aussi. Et tout l'enjeu de ce projet, c'est justement de laisser jouer le soleil, le vent et l'eau de manière complètement libre et en leur mettant le moins d'obstacles possible.
Gaëlle Emery, quel sens on donne à son métier lorsqu'on est comme vous donc, dans ce parc régional de Camargue ?
Alors c'est un métier qui a une dimension très, ça va vous surprendre un peu ce que je vous dis, mais très physique. C'est-à-dire que quand je suis devant mon ordinateur, parce que ça arrive comme... Même pour les techniciens de mon style, on est aujourd'hui toujours devant son ordinateur. Certes, ça fait partie du jeu, c'est intéressant. Mais quand on est ici, comme on est ensemble en ce moment, on est vraiment au contact des éléments. Et moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de très physique. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être complètement connecté aux éléments, de faire presque plus qu'un, et de plus se poser cette fameuse question, est-ce qu'on est dans la nature? Est-ce que la nature est extérieure à nous? Est-ce qu'il y a nature-culture? Et je trouve que c'est peut-être le sens que je donne à ce métier, c'est de pouvoir ressentir ça, qui est une émotion incroyable qu'on a probablement oubliée, mais tout en gardant quand même le recul suffisant pour faire la part des choses, pas m'impliquer trop, parce qu'il faut rester quand même, voilà, moi je suis un technicien qui travaille pour une structure publique, donc il faut un certain droit de réserve, voilà, il faut. Donc j'essaie de jongler entre tout ça, mais ce que je dirais, c'est ce qui est le plus intéressant, ce qui donne le plus de sens à mon travail, c'est lorsque je suis ici, dans ces moments-là, où contrairement à ce que je fais là, ça m'incite plutôt à me taire et à ressentir ce corps à corps physique avec la nature.
Allez, un petit vol de merci donc à Gaëlle Emery de ce parc de Camargue, Arnaud Goffier, WWF, Marion Péguin du Conservatoire du Littoral et Marc Thibault de cette tour du Vala. C'est pas terminé l'émission, non ?
CO2, mon amour.
Au fond, sans vouloir, m'avait révélé à moi-même.
Denis Chessou.
Jusqu'à ce soir, j'ai jamais osé me laisser aller.
Sur France Inter.
Oui, normal. Tout ce qui est plus normal.
Ah bah oui, bah c'est ça aussi, hein, la nature. C'est un autre volet de la nature. Allez, donc c'est pas fini, je vous le disais. Une petite définition avec Cynthia Fleury, philosophe, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. Bonjour Cynthia.
Bonjour Denis.
Le mot du jour, le principe de précaution. Alors c'est l'enfant de qui ?
C'est l'enfant politique du principe philosophique. Principe responsabilité d'Hans Jonas, c'était en 1979. Et avec Jonas, on a appris pas mal de choses. On a appris notamment que la question du futur et des nouvelles générations et du maintien de la vie authentiquement humaine allait être quoi ? Des principes indispensables pour penser une nouvelle éthique.
Alors Hans Jonas propose ici en fait une nouvelle maxime de vie.
Oui, et il ne pense plus en fait comme son prédécesseur que nous connaissons tous et qui s'appelle le philosophe Emmanuel Kant.
Ah bah Manu, oui.
Et Kant défendait cette idée que le principe de mon action doit être universalisable, c'est-à-dire doit être valable pour tous. Jonas dit les choses un peu différemment, il dit qu'il faut agir de manière à ce que les effets de mon action ne soient pas destructeurs de la vie future.
Et alors, deuxième évolution.
Alors, deuxième évolution, c'est que la morale kantienne est plutôt une affaire de conduite privée. La morale de Jonas, c'est plutôt la sphère publique. Et donc, on voit qu'on est de l'ordre de la responsabilité politique. Et le débat, à ce moment-là, ça va être de transformer l'éthique privée en bioéthique publique.
Et enfin, Jonas a été l'un des premiers à revendiquer un certain usage de la peur. Racontez-nous.
Alors, un certain usage de la peur au sens où il en a fait un outil méthodologique. Un outil, comme on dit, heuristique, c'est-à-dire qui sert à la découverte de quelque chose, sachant que les conséquences des expériences scientifiques échappent parfois à notre intelligence, bah, il faut un principe de prudence. C'est nécessaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la chose la plus importante, la précaution. Ce n'est pas l'anti-expérimentation, mais c'est la transformation de la peur en boussole. Quoi de mieux pour anticiper le maintien du monde que d'imaginer tout simplement les menaces auxquelles il est confronté, et donc la peur, pas pour moins de recherche, comme je l'entends souvent, mais la peur pour plus de recherche.
Alors, il faut quand même bien dire que le principe de précaution, il n'est pas forcément du tout compris comme ça.
Non. Alors rappelons aussi qu'il a vu le jour, ce principe de précaution, pour la première fois en 1992, avec l'article 15 de la déclaration de Rio, je rappelle, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
Alors nous, là-dessus, on n'a pas été mauvais parce que la France a fait ce choix donc d'inscrire la Charte de l'environnement en 2005 dans la Constitution.
Oui, et la Charte, elle contient 10 articles, dont celui sur le principe de précaution, l'article 5, qui rappelle que les autorités publiques doivent désormais veiller à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Alors la Charte de l'environnement, c'est aussi une entrée dans la citoyenneté environnementale.
Oui, parce que chaque individu, avec cette charte, a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Mais aussi, pour ça qu'on parle de citoyenneté environnementale, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors encore, on va pas se mentir, c'est une invitation à se saisir de cette obligation éthique, plus qu'une norme contraignante. Oui. Mais, l'article 4 considère quand même que des sanctions sont possibles à l'encontre de celui qui crée des dommages environnementaux, sanctions qui, on va rassurer tout le monde, sont encore trop souvent ignorées par la procédure publique.
Merci à vous, Cynthia Fleury. Et puis, le dernier mot de l'émission, à Jacques Bonafé, citation.
C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Monte, je te prends, j'ai le 4x4, là. Wally.
Cette émission, vous le savez, peut être podcastée. Il y avait à la technique aujourd'hui Clément Berman. Je n'oublierai pas non plus Julien Michel et Florent Bujon pour le reportage. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès. Jérôme Boulet la réalisait. Et la semaine prochaine, je vous retrouverai dans le massif de la Chartreuse en train de découvrir le monde des chouettes. Je vous souhaite un très bon dimanche.